Apéro spécial débrief du Game 4.
Excuse-moi, je m'étouffe. Oh bah non, c'est bon, je suis pas fan des Spurs. Ah bah ouais, ah bah là, la vache. Je sais pas par où commencer, donc on va bien voir. Ce que je disais sur, sur le réseau social X, c'est toujours un dilemme ces matchs-là. T'es toujours en train de te dire quand même il y a un comeback de fou d'Enix, c'est incroyable, la salle qui reprend vie et tout, et en même temps waouh, est-ce que c'est pas plutôt un énorme choke? Alors c'est un énorme choke, hein, on va pas se mentir.
Ah ça je peux te le dire,
c'est
ouais.
Un énorme choke. Alors bien sûr que les Knicks sont allés le chercher et qu'il y a des plays incroyables de ces Knicks qui ne lâchent jamais rien mentalement et qui s'accrochent à la moindre petite, on en avait déjà parlé quand ils font le comeback incroyable contre les Cavs.
Game 1.
Game 1, où on avait dit ah, t'as vu, c'est incroyable, les mecs sont menés de je sais pas combien, et boum, un 3 points qui tombe, et bam, le Madison Square Garden il s'excite, et c'est plus le même match. Incroyable Knicks, magnifique Brunson, on va en parler. On a mis un maillot numéro 8, Knicks, là, voilà. Bon, c'est pas factuellement, ce n'est pas le maillot d'Oji Anunobi, puisqu'il y a eu d'autres numéros 8 quand même assez sérieux avant lui, mais...
Dont J.R. Smith,
tout à fait. Mais, Oji Anunobi, qu'est-ce que c'est que ces playoffs? Qu'est-ce que ces finales? Absolument incroyable, le héros hein, de ce Game 4, le mec, on avait rigolé en disant, oh, c'est Kawhi, oui, c'est Kawhi. Oui,
ça.
C'est Kawhi.
Sur les Spurs.
C'est Kawhi avec le, avec le shoot de Ray Allen, hein. Parce qu'il n'y a plus que Ray Allen et Steph Curry.
Et l'air bon offensif de Moses Malone. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul.
Il y a qui a mis plus de 3 points en un match de finale que OG? C'est Ray Allen et Steph, c'est ça?
Ray et Steph, comme
c'est
ça
tout.
Peut-être. Ouais.
Merci. Peut-être Kobe? Non, je sais plus.
Non. Ouais.
Et voilà, merci. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des classements dans lesquels il y a OG et Nunobi, ça va être nimpe parce que c'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous faire. Voilà, Bastien a mis un t-shirt de circonstance, moi aussi. Hein, chacun son style. Voilà.
Donc moi je pensais que sur le Y là, tu vois le Y de New York là.
Ah t'aurais vos clés, attention. Hein, tu
bah pourquoi pas. De toute façon il a plus le droit de rentrer au Madison Square Garden, donc pourquoi le mettre sur le t-shirt? Un petit Anunobi. Boum.
Moi je te propose.
Ça rentre bien sur le Y de New York.
Moi je te propose d'enlever Mason et avec le haut tu mets Fox. Je vais balancer mon café dans la caméra. Je te jure, je vais péter un
peu. Attends, Fox, oui, bien sûr, on va lui tomber dessus, hein, mais pas qu'à lui. Hein, pas que lui. Hein.
Mesdames et messieurs, déjà j'ai fait l'effort de faire ce débrief, d'accord,
bon, okay. C'est normal.
Mais bien sûr que c'est normal.
C'est le professionnalisme, hein, vous connaissez, notre professionnalisme légendaire.
Obligé de faire un débrief de ce Game 4, puisqu'on a vécu un des plus grands moments de l'histoire des finales NBA. Le plus grand comeback de l'histoire des finales NBA sur un match. Sur un match.
Oui.
De comeback. Parce qu'il y a eu d'autres comebacks dans l'histoire des finales NBA, si tu vois ce que je veux
dire. On va en parler. On va devoir en parler.
Il y a des gens qui se sont barrés à la mi-temps de ce match et qui doivent certainement penser que les Spurs sont à égalité. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a 3-1 pour les Knicks après être revenu de 29 points de retard en début de deuxième mi-temps. Au secours.
Non, au secours.
J'ai trop de choses à dire, mais moi j'avoue, je suis en PLS depuis... Vraiment, la phrase même que je pensais avoir mis de côté depuis Ray Allen en 2013, qui consiste à littéralement s'allonger sur son lit et fixer le plafond, je l'ai vécu ce matin, moi. Je me suis fait le match en direct, j'étais comme as de 6 à 8, là, comme ça.
Tu m'étonnes.
Non, me parlez pas.
Mike Breen, à la mi-temps, au commentaire sur ABC, il a dit que c'était « one of the most dominant finals first half you'll ever see ».
Mais bien sûr.
Donc, une des mi-temps les plus dominantes en finale que vous pouvez voir.
Non, mais là...
Mike Breen, il en a vu 3-4 des mi-temps de finale.
Oui, oui, mais là, la première mi-temps des Spurs, c'est ridicule.
Mais donc c'est pour ridicule. Ça que c'est un comeback all-time. C'est parce qu'il y a l'écart de points. Bien sûr, l'écart de points, c'est monté jusqu'à 29, hein, on va en parler. Il y a 27 à la mi-temps, et en début de deuxième mi-temps, j'espère c'est continué, ça monte à 29 et tout. Bref, on va en parler, évidemment, on va peut-être pas faire un play-by-play, mais pas loin. Ça vaut le coup, je trouve.
Ah, prenez votre temps.
Ouais. Mais
comme Fox.
76 points à la mi-temps, avec des tirs qui rentrent dans tous les coins, l'attaque impeccable, nickel, défense
l'approche.
Bonne, mais pas... Comment dire, les Knicks mettent 49 points,
c'est bien, hein.
c'est pas assez, c'est en dessous de leur standard, on va dire, mais c'est pas non plus minable. Tu
vois. Mais les Spurs sont propres. Heureusement qu'il y a un coup de chaud de Brunson en première mi-temps là sur le second quart-temps, parce que sinon, au global, la défense des Spurs, c'est très bien.
C'est très bien. Ah ouais. Les Knicks arrivent à scorer quand même parce qu'ils ont une attaque qui est très variée et très comment dire, très efficace, enfin qui arrive bien à scorer même contre les défenses fortes. Et c'est pour ça que en aucun cas il s'agit de vouloir dévaloriser quoi que ce soit que les Knicks aient fait, mais limite ce comeback m'impressionne presque moins que celui face aux Cavs ou quoi. Mais il m'impressionne de ouf parce qu'il est historique, mais je veux dire, la deuxième mi-temps des Knicks est meilleure que leur première, en défense notamment, c'est beaucoup mieux. Ils poussent un peu plus les Spurs dans des situations inconfortables, mais clairement, les Spurs mettent que 30 points et les Knicks en mettent 58, donc c'est mieux que 49, mais c'est pas non plus. C'est pas comme si les Knicks avaient mis 80 points en deuxième mi-temps ou quoi.
Les Spurs ont mis 30 points en deuxième mi-temps.
Et on fait des erreurs, mais genre non, des mais erreurs. C'est même plus des erreurs, c'est des fautes professionnelles. De toute façon, c'est une faute professionnelle à laquelle nous avons assisté la nuit dernière ou ce matin en replay pour certains, pour moi notamment. C'est une faute professionnelle.
Ou,
vraiment, avec un grand F et un grand P.
Tout à fait. Ou, voilà. Comme j'essaie de le répéter aussi, parce que malheureusement, ça fait partie du truc. Ou, un apprentissage en 4K pour une équipe jeune.
Ah oui, oui, bah ça, on peut mettre des choses sur le compte de l'expérience,
parce
absolument
aucun
problème.
Sur ces finales, bien sur sûr. Lesquelles on se régale,
mais hein, ça reste une faute.
Tout à fait, mais sur ces finales, on a 4 matchs là. Franchement, là, les finales, au bout de 4 matchs, là, on est déjà en train de rentrer dans le très très haut du panier du 21e siècle.
Il y aurait 3-1 Spurs, personne dirait, ne pourrait rien dire.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, on va revenir sur toute la chronologie et là, on va refaire la première mi-temps, mais oui, c'est une faute professionnelle.
Ah oui.
Et en même temps, au même niveau. Quand on a parlé après des exploits de ces Spurs depuis octobre en termes de challenge qu'ils ont rencontré et où ils ont tabassé toutes les attentes. Toutes les attentes en saison régulière, en demi-finale face aux Wolves alors qu'il y a un partout, mené 3-2 par le Thunder et ensuite remporté le Game 7 à l'extérieur. On s'était demandé si cette équipe était même capable, avec cette inexpérience, d'être à son meilleur niveau en finale NBA. On a deux fins de match sur les trois derniers, où les Spurs font des erreurs de jeunesse, d'inexpérience aussi.
Bien sûr.
Donc, évidemment, c'est de la faute professionnelle, mais c'est aussi très difficile. Et on avait parlé dans la prévue ces Spurs-là allaient découvrir aussi des choses où, quand tu dois terminer un travail, tu le termines en pas trop.
Expérience est bien évidemment mise en avant ici, encore plus que dans le Game 2, je trouve, dans ce comeback, puisque en fait, ce comeback, on va en parler, on va détailler la deuxième mi-temps, mais ce comeback se fait en deux temps. Il y avait largement la place pour qu'on se réveille, pour ceux qui n'ont pas regardé en direct ou pour ceux qui sont en direct, avec un « Oh là là, les Knicks ont tellement bien recollé, mais bon, quand même, les Spurs l'ont emporté de 7, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire ?» Un truc comme ça, quoi.
De toute façon, c'est simple, la seule fois où les Knicks mènent au score, c'est à une seconde de la fin du match.
Pas en tout début de match aussi, je crois.
Peut-être, il y a un 2-0, mais sinon, ils ont mené 50 secondes.
Oui. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Quand je dis c'est une faute professionnelle, c'est parce qu'il y a une... C'est pas juste une erreur, c'est qu'il y a une... Il y a un nombre d'erreurs énormes.
C'est 24 minutes d'erreur, c'est 1h30 d'erreur.
Voilà, il y a un nombre d'erreurs qui est énorme. Il y a des erreurs ponctuelles, on va en parler, des gars qui vont lay-up alors qu'ils doivent garder la balle, deux lancers ratés d'Wemby au pire moment, alors que le mec il est à combien au lancer depuis le début des playoffs? Il est au moins à 80%, non? Ou un truc comme ça, non?
On peut autant qu'on veut, et on va le faire, on peut autant qu'on veut en vouloir à des, moi le premier, à des Fox, à des Victor, à des machins, etc.
Bien sûr.
Juste par contre, on va parler français, c'est pas avec un seul homme que tu perds un lead de 29 points. C'est toute une équipe.
Non.
Tout, joueur et staff. Tu mènes de 29 points et t'arrives à choke ça. Je veux pas entendre un joueur qui est isolé par rapport au reste. C'est une défaite atroce, collective, où tout le monde doit comprendre ce qui s'est passé. Il y a qui est capable là de se regarder et de dire moi c'est bon, j'ai pas à m'en vouloir, j'ai fait le taf.
Non, bien sûr.
C'est tout le monde.
Non, mais c'est bien sûr. Mais après, ce que je veux dire, bien sûr que c'est quand tu te fais remonter autant de points, bien sûr que le choc est collectif. Toujours, notamment par exemple, je sais pas moi, les Spurs d'un coup ils se sont arrêtés d'aller sous le panier, quoi. Ils se sont arrêtés. C'est vrai qu'en première mi-temps, tous les tirs à 3 points ont presque rentré, donc forcément. Mais là, quand t'es dans la sauce, il y en a pas un pour attraper l'autre, ni dans le coaching staff, ni chez les joueurs. Plus personne va attaquer le cercle, à part un peu Cassel, qui met quelques lancers parce qu'il va chercher quelques fautes, mais sinon...
Ah, sinon open bar.
C'est n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un défaut collectif et tout. Après, on va être obligé de pointer des chokes individuels. On va pas avoir le choix.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a des joueurs qui ont fait des actions qui étaient atroces à un moment où il fallait juste réfléchir avec sa tête.
Et changer le cours du match, en fait. C'est ça que je veux dire.
Et offrir de la vie à Senix.
Eh ouais.
Reprenons depuis le début.
Vas-y.
Lorsqu'il y a 2-1.
Oui.
On se ramène au Madison Square Garden. Il y a toujours le même protocole de sécurité, sauf que cette fois, il n'y a pas la grosse courge qui est dans le public. Donc, enfin, en tout cas, elle a changé. Elle s'appelle Taylor Swift. Et donc, du coup, on est sur un nouveau match, Game 4, où les Spurs savent qu'ils sont dos au mur et qu'ils vont devoir faire la meilleure entame possible. L'entame de match des Spurs, elle est parfaite. C'est de la perfection. Oui, on est les premiers à regarder le match et à se dire, attends, c'est quoi ces espèces de deux fautes sifflées sur Karl-Anthony Towns? Parce que tout de suite, hein, ça fait basculer le match. Hein. Le mec, il prend deux fautes en 55 secondes. Il y en a une sur le drive de Fox. Bon, moi, je veux bien la donner. La faute offensive, par contre, overturn sur Wemby. Moi, j'étais là, genre, les gars, doucement quand même.
Je suis d'accord.
Doucement.
Je suis d'accord.
Mais sur l'entame de match des Spurs, 41 à 22 dans le premier quart-temps.
C'est super.
Vassell est parfait au shoot. Wemby est parfait des deux côtés du terrain.
Le ballon circule.
Brunson est éteint. Il n'arrive même pas à contribuer dans le premier carton.
Non, il fait un premier carton horrible, Brunson.
Horrible, exactement.
Il se fait cibler de l'autre côté et tout. Enfin, tout va bien.
On vient même à avoir du Mitchell Robinson qui rentre sur le terrain et Wemby score sur lui, trash talk, rentre dans sa tête, I'm in your head. Et donc, il y a le coup de Mitchell Robinson qui fait lever le Madison Square Garden. Vu ce qui s'était passé au Game 3, tu sais, avec le coup sur Jalen Brunson qui n'avait pas été sifflé flagrante. Là, il y a flagrante sifflé sur Mitchell Robinson. Tout va dans le sens des Spurs. 41 à 22. Je veux dire, comment est-ce que tu peux mieux démarrer cette rencontre à l'extérieur?
On est complètement dans la continuité du Game 3 où ils sont rentrés au vestiaire. Si on l'avait dit, genre en mode déterminé et tout. On avait cette sensation de momentum qui était en train de tourner. Et quand tu vois le premier quart, tu te dis, bah oui, momentum, il a tourné.
C'est violent. Merci. C'est le plus gros lead des Spurs sur la série.
Et là, dans ta tête, tu te dis, bah attends, bon courage, hein, les Knicks, là, parce que là, va falloir se les faire, les petits jeunes. Hein. C'est compliqué. C'est limite les Knicks qui ont l'air un peu. Vraiment, ils ont l'air tout d'un coup, ils ont l'air très en dessous athlétiquement.
Ouais.
C'est fou le basket pour ça. Hein. Ils ont l'air très en dessous sur plein de plays. Effectivement, bon, les fautes sur Towns les aident pas, mais globalement, même sur la ligne externe, ils se font manger de ouf.
Absolument. Et la réponse mentale d'ailleurs des Knicks, moi, j'avoue, sur le premier temps, je dis, c'est ça votre réponse? C'est-à-dire que littéralement, bah, t'as beaucoup d'isolation. Et OG Anunoby, on avait parlé avec Mike Brown sur les matchs précédents. On attendait de voir quelle allait être la réaction des Knicks en sortie de leur première défaite depuis quoi? Ça faisait 50 jours qu'ils n'avaient pas perdu un match, les mecs.
Ouais. Ah non, mais
le mouvement de balle n'y est pas du tout.
Non, pas du tout.
T'as des isolations dans tous les sens, donc les Spurs, parfait pour eux. T'as même Jeremy Sohan qui doit rentrer sur le terrain parce qu'on a utilisé Hugh Porty. 4 cas de faute, Mitchell Robinson, donc Sohan est envoyé sur le parquet.
C'est
en
clair
mode,
qu'il va piocher loin dans le banc.
Faut aller piocher loin. Mmh. Tu as, quand c'est pas Mitchell Robinson qui, évidemment, essaye de répondre parce qu'on sentait que les Knicks allaient avoir un traitement physique particulier sur Victor, t'as même Alvarado qui fait limite une cathédrale sur Wemby, tu sais, au rebond un moment
pour essayer de le soulever avec ses jambes.
Et là, moi, j'avoue, je me dis, mais attends, si ces Spurs là sont sereins, ça peut partir en vrai branlée parce que la réponse initiale mentale de Senix, elle est pas bonne du tout au début du match.
Et surtout que le deuxième quart, je veux dire, c'est moins violent que le premier,
mais ça continue. Ça
hein.
y va. Hein.
Ça continue, l'écart se creuse encore, je veux dire.
Bah ouais.
Bon, il y a 41-22, donc plus 19 dans le premier, mais dans le deuxième, il y a encore un petit plus 8 hein, qui est rajouté. Non, mais c'est beaucoup.
Il y a combien à la mi-temps? Plus
27. 76 à 49.
Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon,
voilà, attends, excuse-moi.
Normalement, ça va. Les Spurs, comme tu le disais, Mike Breen le précise.
C'est le 2-2 en vue, quoi.
Tout à fait. Mike Breen le dit bien. C'est une des mi-temps les plus dominantes qui puisse exister dans l'histoire des
Offensivement,
finales.
Offensivement, c'était monstrueux, les Spurs, sur la première mi-temps, vraiment.
Tout à fait. Et même dans les stats, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher le record de 3 points rentrés en première mi-temps.
14 3 points, là.
Ils ont 14 tirs à 3 points, les Spurs. Élément qui peut être important pour la suite, parce que quand tu as des joueurs qui sont en confiance, peut-être qu'ils peuvent commencer à prendre des choix de merde, c'est-à-dire oublier d'aller à l'intérieur. Mais la réussite est telle côté Spurs à 3 points que les mecs peuvent shooter, mais littéralement dos tourné au panier, que ça rentre. Hein. Hey, tout le monde, hein. Carter Bryan,
tout le monde.
Dylan Harper, Champagny, Vassell.
Le Madison Square Garden, c'est une cathédrale à la mi-temps, une cathédrale.
Ah ouais. Et là,
ouais.
Wu-Tang.
Concert de Wu-Tang. Eh ben, n'empêche que, à mon avis, moi je suis les Knicks, je mets un concert de Wu-Tang à toutes les mi-temps maintenant.
C'est le Wu Game.
Terminé. Alors, je me prends pas la tête avec les histoires de coaching, de tactique et tout.
Les chiens qui jouent avec des ballons, tu vas te faire foutre.
Voilà. Vas-y, Red Panda, rentre chez toi. Voilà.
Tu mets Method Man.
Christian
allez, c'est
et Scooby, désolé, les potos.
Absolument.
C'est mort.
Tu mets tous les gars du Wu.
Ah bah là.
Staten Island, on y va. Et c'est vrai qu'ils disent putain, mais c'est parti, let's go, Knicks in 5. On va se reprendre. On met du New York State of Mind, désolé Nas, sur le terrain pour redonner un petit peu d'énergie à ce public qui. Logiquement, pionce. La sieste à 10 000 dollars à la mi-temps, elle fait mal. Hein.
Tu m'étonnes.
Parce que là, moi, à la pause, est normal. Hein. Il y a des gens qui commencent à tweeter. Putain, t'imagines, t'as payé 15 bars pour.
Salut, la FF Flouze. La FF Flouze.
Ah, mais
tout
à fait. Bon, si tu
c'est
barres,
la FF Flouze qui tweet ça. Je sais pas si vous y voyez un lien de cause à effet, mais peut-être qu'il y en a un. Hein.
Si tu te barres à ce moment-là du match, c'est vrai que le ticket, il a été un peu cher.
Ah, j'avoue.
Si tu restes jusqu'à la fin de la soirée, c'est peut-être la meilleure rentable de l'histoire d'un fan de sport. Au secours, excusez-moi.
Ah, c'est dingue, c'est dingue, c'est complètement dingue.
Tout va bien, et d'ailleurs, avant de basculer dans ce truc, j'allais te lancer Alex sur... on avait vu du gros Castle et du gros Wemby sur le match précédent. Ce sont les deux leaders du Game 3. Castle un peu plus en difficulté là sur ce game 4, il y a notamment des soucis de faute, mais
des soucis de faute et puis ils trouvent pas ses spots en attaque, pas
oui,
trop,
pas trop.
Mais c'est pas grave, on en parle pas vu que les Spurs cartonnent.
C'est ça,
on s'en
mais
fout.
À la mi-temps, on est vraiment sur un match fort de Victor qui propose une première mi-temps à la hauteur d'une star qui doit répondre présent dos au mur.
Grave, mais bien sûr. D'une star qui est genre, t'as pas l'impression qu'il est dos au mur, t'as l'impression que le momentum il est pour lui et ses gars et que genre ça va aller tout droit, ça va rentrer à San Antonio à 2-2.
Reste plus qu'à savoir les quarts finales,
voilà.
Il va y avoir 2-2.
Exactement, genre au bout de, à 7 minutes de la fin dans le quatrième quart, drapeau blanc, tout le monde, on fait rentrer les remplaçants, tout ça, on y va.
À l'entame du troisième quart, tu me dis, mais c'est sur les 3 premières minutes que ça monte à 29.
Oui, c'est ce que je te disais, c'est ça, c'est que ce qui est fou, c'est qu'en retour de vestiaire, même avec le concert de Wu-Tang, les Knicks ils sont à peine dedans. Il y a un 3 de Wemby qui tombe encore dedans. Il y a Fox qui met un petit jump shot. Entre-temps, je ne sais plus qui marque côté Knicks. Je ne sais plus, on s'en fiche, ce n'est pas grave. Mais il y a 3 points des Knicks. Et on se retrouve à 81-52, donc à plus 29. Et donc vraiment, là, un écart qui monte au maximum. Ironie, d'ailleurs... Hein, on le sait pas à ce moment-là, mais l'ironie, c'est quand même que t'as Wemby et Fox qui viennent de faire très mal aux Knicks d'entrée de troisième quart, de retour de vestiaire, le 3 de Wemby, le petit jump shot de Fox.
D'ailleurs, Fox
et ce sont les deux qui vont être les symboles du choke après.
Tout à fait.
Vraiment. Et symboles, pas juste comme ça parce qu'on a envie de faire de la théorie. Hein. C'est parce qu'ils ont fait des grosses conneries sur le terrain, ils ont chié dans leur froc.
Tout à fait. J'ai oublié juste une parenthèse importante sur la première mi-temps parce qu'elle va avoir tout son impact aussi sur la deuxième. S'il y a un joueur qui a été fort au scoring mais en difficulté dans les pourcentages et qui trouve son rythme dans le second quart temps, c'est Jalen Brunson.
Ouais, Jalen Brunson, il trouve un peu son rythme en second quart, tout à fait.
Parce que le premier quart temps il est mauvais, mais le deuxième il met 15 points je crois dans le second quart.
Et puis dans le troisième quart, ça va se voir qu'il est en rythme.
Et quant à JB qui peut se mettre en rythme pour réaliser sans débat son meilleur match des finales.
Ah oui,
parce qu'il n'y avait pas les pourcentages, mais là il y a le scoring, les pourcentages, le comeback,
clutch
de fou malade.
C'est pas le plus clutch de tous sur ce match exceptionnellement.
C'est pas la dernière action la plus clutch, mais on peut dire que c'est peut-être quasi le mec le plus clutch aussi de la rencontre avec OG. Quoi.
Ah ouais, avec OG, derrière OG, OG, non, c'est n'importe quoi la clutchitude d'OG.
Mais sur les 5 dernières minutes, ce que je veux dire, c'est que forcément OG a été incroyable sur les.
Non, mais le petit flotteur et tout qui donne l'avantage. Non,
3 sur la ISO, 3, bon bref. Mais Brunson, oui, rentre en rythme. Troisième quart, 80-52.
Plus
là,
29. Et
plus
là,
29.
Tout d'un coup, boum, il y a...
13-0.
Ouais, un 13-0, il y a une interception, il y a une mauvaise passe de Fox, bim bam, ça part en contre-attaque, il y a Anunoby qui dunk, il y a Brunson qui met un 3 points, il y a Mitch Johnson qui essaie de prendre un petit temps mort pour calmer le truc, mais deux sorties de temps mort, mauvaise passe de Fox, puis 3 points d'Anunoby, il y a un 3 points de Hart aussi. Ça recolle, ça revient, un petit 13-0, c'est-à-dire que de 81-52, t'es à 81-65, donc t'as encore 16 points d'avance, attention. Hein.
Tout à fait.
Mais c'est plus le même match, le Garden, ça se lève.
Ça devient possible.
C'est plus pareil, c'est plus la même.
On passe de impossible à 1 sur un malentendu, peut-être que quelqu'un va se chier dessus. Et c'est vrai que...
Et là, il reste 5-6 minutes dans le troisième quart encore, il reste beaucoup de temps encore.
Il reste beaucoup de temps et ces Knicks-là ont montré qu'ils étaient capables de remporter n'importe quel team de match, puisque en effet, historiquement... Il y a eu deux comebacks sur les dernières décennies de 20 points dans un quatrième quart-temps. Il y a eu plusieurs, hein, mais deux des plus récents, c'est ceux des Knicks sur ces playoffs. C'était
clair.
Les Cavs et là les Spurs. Donc, ils ont montré que quoi qu'il en soit, ils ont une ressource mentale énorme. Et je mets tout de suite le focus dessus parce que là, moi, ça va être le début de la débandade. choix offensif des Spurs, une vaste blague.
Une grosse blague.
Une vaste blague. On a complètement oublié les attaques à l'intérieur.
Complètement, de toute façon, sur le match, ça se voit. Tu regardes les stats d'équipe.
Rien. Je regardais ça tout à l'heure. Un mec qui prend une bonne décision.
Points in the paint. Les Spurs, 28 points seulement sur ce match. C'est pas assez du tout. On en avait déjà parlé. Et ce qui est fou, c'est que là, c'est pas un comeback d'un coup. Là, il y a une sorte de plateau, là. Flottement, je sais pas si c'est le mot, mais c'est-à-dire que bon, bah, les il y a des lancers de Castle, il y a quelques petits points qui rentrent.
16-20, quoi.
Il y a un.
Ça reste, entre, 16
ça reste entre 15 et 20, là. Tu vois, à 1 minute 30 de la fin du troisième quart, on est encore à 90-72, donc à plus 18. À la fin du troisième quart, on est à 90-75. Il y a 15 points d'avance.
C'est ça. C'est qu'en plus, même en ayant fait ce caca,
il y a 3 points pour revenir à 15, je crois.
De toute façon, OG, il a eu les mains sur absolument toutes les shoots les plus clutch.
Ça commence à perdre des ballons bêtement.
Ouais.
Ça commence, comme tu l'as très bien dit, à faire des mauvais choix offensifs.
C'est-à-dire que
ça force un peu trop les trois points.
Ça n'a même plus été cherché. Exactement, il y a des trois points qui sont complètement forcés. Il n'y a même plus une histoire d'essayer d'écouler l'horloge. Il n'y a même pas soit d'écouler l'horloge sur demi-terrain, soit d'accélérer pour mettre des points en transition dans la raquette. Puisque un des éléments qu'on avait vu, c'était que pour aller freiner Castle ou Harper, il est chaud patate sur ce match. Il nous fait des choix de fou furieux. L'autre, il est en isolation, ligne de fond sur Ginobili, il n'y a aucun problème.
Aucun problème.
Zéro problème.
Non, bien sûr.
Il est énorme.
Harper, c'est lui qui met le premier panier du troisième quart. Dans le troisième quart, ça remonte encore un peu à 20 points. Là, il y a 95-75 sur le putback de Wemby, le putback incroyable de Wemby. Le putback incroyable. Donc, c'est vraiment un comeback en deux temps. Avec un premier gros push dans le début, milieu du troisième quart.
Ouais.
Et après, un plateau, comme on vous dit, là, ça reste entre 15-20. Ça score un peu côté Spurs quand même. Il y a quelques petits paniers qui rentrent. Il y a quelques erreurs défensives des Knicks. Il y a quelques trucs, voilà. Et là, à partir de 9 minutes de la fin, quand ça remet à 20 points, il y a notamment, il faut le reconnaître et... On peut pas lui enlever ça. Mike Brown fait des très très grands playoffs. Le mec est inspiré, quoi. Le mec, il fait tiens, vas-y, Alvarado.
C'est Alvarado.
Tu vas mettre des gros tirs.
C'est Alvarado.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ce que Landry Shamet a fait à San Antonio.
Normalement, il doit faire jouer Shamet, quoi.
Ce que Landry Shamet fait à San Antonio. Tout à fait. McBride.
Alvarado.
N'apporte rien, puisque McBride se fait cibler parfois en défense et il rentre plus une bille en attaque.
Hein. Alvarado est plus compliqué à cibler en défense, ça, c'est sûr.
Et Alvarado, tout à fait, t'as raison, Alex, c'est un des éléments clés, hein. C'est un des facteurs X, c'est un des mecs d'ailleurs, il fait un money time de fou.
Voilà, exactement. Genre, c'est. Attends, c'est.
Mais tactiquement, ce qui est intéressant et à suivre d'ailleurs pour la suite de la série, c'est que Mike Brown en parle. En fait, tu as un autre vrai ball handler qui est capable de mettre de la percussion, puisque Alvarado n'a pas peur d'aller vers la raquette. Alors, c'est pas un grand finisher à l'arceau, mais il est capable.
Et il défend bien sur la balle.
Il défend bien sur la balle. Et apporter ce rythme-là fait que tu as un autre ball handler que Jalen Brunson qui commence, certes, à être chaud, mais qui est un petit peu parfois doublé par les Spurs. Donc Alvarado dans ce 5, ça permet aussi parfois à Wemby de devoir sortir un peu plus quand il y a des switches. Ça oblige Wemby à sortir et donc du coup d'avoir des lignes de pénétration pour certains autres garçons qui vont scorer à outrance, quoi.
De toute façon, c'est pas compliqué là. Il y a 95-75. Les Spurs vont se prendre. Je suis en train de calculer le run. Ils vont se prendre un run de 20 à 4 ou 20 à 5 entre 9 minutes 20-30 et 4 minutes 20-30. De 9-20-30 à 5-20-30, là, 4 minutes, ils vont se prendre un gros, gros run dans la bouche.
C'est là qu'on revient à 4 points de retard, là.
Là que ça revient fort. Ça revient à 99-95.
Ouais, t'es mort, là.
Sur le 7e 3 points d'OG. C'est-à-dire qu'il y a Alvarado, Mikal Bridges qui met un ou deux petits paniers, il y a Karl Anthony Towns qui met un gros 3 points plus un panier à coup de muscle là, sous le cercle, là. Vraiment un bon panier, un petit drive de Brunson, OG qui envoie son 6e et son 7e 3 points, et pendant ce temps-là, les Spurs, ça score à peine. Ça score 4 points en l'espace de 4 minutes, 4 points en 4 minutes, c'est pas un bon rythme, c'est pas un bon rythme dans un money time. Et là, en fait, c'est plus pareil, quoi. C'est... Bon, il y a le 3 points de Fox derrière là, qui remet à plus 7. Où là, vraiment, t'as envie de te dire, non, bah là, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Non, normalement.
Alex.
Non, mais normalement.
Non, Alex.
Sur le 3 points de Fox qui remet à... T'en bouge pas, ça doit être à...
Non, j'ai pas le plat, t'en bouge pas, j'ai du
198
102,95. Il remet à 102,95.
Et c'est là qu'Alvarado nous envoie 5
Alvarado.
Points exceptionnels. Il y a la pénétration qui
est en 5. Il y a Wemby entre les deux, mais ouais.
Il y a un 3 venu d'ailleurs, là, où il dit, en plus, c'est un natif du coin, il dit, moi, c'est réalisé mon rêve, quoi. Le mec, dans une remontada, t'es à New York, t'es à la maison, t'es au Madison Square Garden, en feu, tu réalises le plus grand comeback de l'histoire, et t'es un des gars éléments clés de la remontée. Il était quasiment en larmes en conférence de presse, Alvarado.
Là, il reste 3 minutes pourtant. Il reste 3 minutes et il y a encore 4 points d'avance pour les Spurs. Il y a 104 à 100. Il reste 3 minutes. Le score final, c'est 106-107 pour les Knicks. Il va y avoir un 7-2 dans les 3 dernières minutes. Donc c'est très peu de points scorés. Dans les 3 dernières minutes, les Spurs ne mettent que 2 points.
Le dernier point avant le 104, c'est le jumper de Victor à 3 minutes de la fin. Là,
ouais.
Sur 4,
ouais,
je crois.
Le jumper, ouais, tout à fait. Jumper
qui donne,
de Victor.
Qui donne un
ensuite, il y a l'énorme 3 d'Alvarado. T'es à 104 à 100 pour les Spurs. Il reste 3 minutes ish à jouer. Et en fait, on oublie, mais genre en 3 minutes de fin de match, les Spurs ne vont mettre que 2 points. Qu'ils en encaissent 7.
Non, ça va.
Ça va, enfin, c'est pas minable. Déjà, il y a un 3 points de Brunson sur la tronche de Wemby. Bon, bah voilà, celui-là, voilà.
Hein, non, mais good defense, mais joueur extraordinaire.
Voilà. Mais je veux dire, ils ont mis que 2 points. Et pourquoi ils ont mis que 2 points? Et c'est là qu'on va devoir détailler. Parce que là, il y a des. En plus, je veux dire, ce qui est fou, c'est que tu vois la perte de balle de Fox où Hart il part tout seul en contre-attaque. Je l'aurais mis, moi, le layup. Et bah, Hart, lui, il fait un espèce de truc à deux mains. Il réussit à le rater alors qu'il a les mains dans le cercle. Dire, normalement, tout est bon pour les Spurs.
En fait, Josh Hart même le dit tout à fait en conférence de presse. Il dit, moi, OG Anunoby, je lui dois tout ce qu'il veut parce que j'ai failli avoir des regrets. J'étais
à la
fin de ma vie.
Vache, tu m'étonnes.
Josh Hart,
d'où il dunk pas ça.
Fumble de malade. Bah, écoute, c'est comme
il
ça.
Fumble
ça arrive.
Total. Il hésite entre le dunk et le layup, à mon avis. Et il fumble comme un ouf. Mais c'est fou, non?
Complètement. Bah, de toute façon, toute cette fin, c'est la fin de match.
Donc,
c'est...
Ils ont mis que 2 points, les Spurs.
Il n'y a que 2 points.
Hart s'est chié.
Et en fait, c'est vrai que dans cette fin de match-là, je le rappelle malheureusement pour mes amis fans des Spurs, puisqu'on continue sur les choix de merde, tu devineras jamais quelle équipe est dans le bonus depuis quelques minutes.
Les Knicks. Les Knickers-Bockers. Les Spurs. Enfin, les Knicks sont trop
tôt. Si les Spurs vont aller provoquer gentiment, non pas à 9 mètres du panier, mais proche de la raquette, tu as peut-être plus de possibilités d'avoir des lancers.
Bah c'est
potentiellement.
Wemby, il a écouté tes conseils, hein. Il a drivé, il a obtenu deux lancers, Wemby. Ouah, vache. On l'aime beaucoup, hein, vous le savez. Hein.
Non, mais
et là, c'est lancé là, il a
Victor,
pas le droit.
Victor, c'était marqué sur sa tête.
J'ai regardé un 86% depuis le début des playoffs au lancer, Victor.
Et Victor, juste.
Oh encore une fois. Deux lancers ratés là.
Il y a eu des trucs extraordinaires. Mais alors, le 0 sur 2, il y avait marqué sur sa tête, il voulait pas être sur la ligne à ce moment-là. Il y avait, et franchement, ça se voyait. Il y avait un niveau de pression et puis un vacarme à New York. Enfin, je veux dire, là, t'as juste envie d'être ailleurs. Les deux lancers sont loupés par Victor.
Ouais, mais faut les mettre ceux-là.
Il y a, moi, c'est aussi un des éléments clés, malheureusement, sur la fin de match, parce que ça s'est vu, notamment sur du rebond offensif. C'est que l'ami Stephen Castle, qui avait été bien clutch sur le match précédent pour aller mettre des lancers et qui va gratter du rebond offensif, il y a 5 fautes pour le pépère. Oui. Et donc, non seulement c'est plus difficile pour venir aider sur Brunson, mais en plus, il y a du temps de jeu qui est un petit peu réduit pour lui parce qu'il ne peut pas autant jouer que les autres. 26 minutes, hein, Stephen Castle.
Ça l'empêche pas, c'est lui. Parce que, bien sûr, mais c'est quand même lui qui met les deux derniers points.
Les deux derniers lancers,
deux lancers, c'est Castle.
Mais si Castle n'a pas ces soucis de faute-là, il
est là
sur le terrain, fautes,
je suis d'accord.
Bêtes, et bah, du coup, il est sur le terrain et tu vois, il joue quasiment 20 minutes de moins qu'un Wemby. Donc, c'est ça aussi la difficulté. C'est que non seulement tu dois faire confiance davantage à des Wemby, Champagny ou Fox ou Vassell pour aller vers le panier. Mais un de tes mecs les plus physiques costauds, hein, Castle, il est extraordinaire sur pénétration. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et sur la fin de match, quand il est là, il parvient à gratter du rebond offensif, comme tu le dis, pour les donner les points des Spurs. Mais sinon, derrière, bah, c'est là que, par contre, je reviens sur un truc que tu as dit, qui m'a fait beaucoup réfléchir ce matin, parce que je suis en PLS depuis 6 heures du matin. Et ça devrait durer tout le week-end. Hein.
Il va y avoir des nouveaux projets, du coup. C'est bien.
Il va y avoir des enfants qui vont s'appeler OG, comme certains ont dit. C'est que. Dans l'histoire de la NBA, et ça arrive quasiment chaque saison, il y a une part de magie pour arriver jusqu'au titre. Et quand tu parlais dans la preview qu'il y a une espèce de destinée Knicks et qu'il y a un truc magique
là,
qui peut avoir
lieu, ville, hein.
C'est que en fait, les deux dernières minutes, c'est quasiment, alors c'est de la sorcellerie côté Spurs, mais c'est de la magie côté Knicks, parce que il y a un nombre de plays où tu te dis mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. La plupart des réactions des gens sur la fin de match, c'est ce n'est pas possible.
Non mais c'est sûr, évidemment, je veux dire, de toute façon c'est pas compliqué. Les deux lancers de Wemby, je répète, c'est ok, possible. Ça se voit sur son visage, il a la pression, il est jeune, sortez toutes les excuses que vous voulez, le mec c'est un 85% shooter au lancer, il a des mains de ouf, et là il rate les deux. Voilà, il a de choc grave et il s'en veut encore. Il est pas près d'oublier ces deux lancers là. On n'est pas loin de la Nick Anderson. Derrière, le petit drive avec flotteur de Brunson, c'est-à-dire que t'as la superstar des Spurs qui choque de lancer et derrière le capitaine il fait bouger pas les gars. Mettez-moi juste un écran, je vais mettre un petit flotteur. On va passer devant. Non mais genre,
quand ça passe à 105-104 là, moi j'ai fait pardon.
Oh la vache. On va passer devant.
Et pourtant. Hein.
Non mais c'est dingue.
Et pourtant, moi je me suis dit à ce moment-là, si ces Spurs sont aussi
près
que je
20,
pense,
hein.
si ces Spurs sont aussi forts que ce que je pense, ils vont trouver le moyen défensif et offensif de faire le boulot. Et lorsqu'il y a
Ils en sont pas loin.
Et lorsqu'il y a Stephen Castle qui met ses deux lancers,
tu repasses devant. Il reste quoi? Il reste
106-105.
30 secondes.
106-105. Il reste 30 secondes. Ouais. Possession pour les Knicks.
Oh là là.
La défense des Spurs magnifique, sur cette séquence, magnifique, elle est parfaite.
Il y a un style d'ailleurs, style de Fox, interception. Hein.
Ou c'est peut-être pas Fox
qui intercepte vraiment.
C'est un rebond, la balle elle tombe et puis finalement il faut essayer
Fox,
de la choper.
La pousse et
Fox
court.
La pousse. Et à ce moment-là,
ah bah là par contre,
le mec le plus expérimenté en âge de ce groupe sur le parquet, qui se retrouve avec la balle, plus un Spurs, 14 secondes à jouer. Soit tu dribbles, tu te mets dans un corner même, tu pisses sur Stephen Marbury si tu veux, j'en ai rien à foutre.
Montre le tweet que je t'ai proposé tout à l'heure. Le mec qui a reconstitué ce que Fox aurait dû faire. Ah oui, je te l'ai envoyé dans tes messages.
Si tu es D'Aaron Fox, tu es littéralement, t'inquiète, je vais le montrer. Si tu es D'Aaron Fox, tu es gentiment en possession de la balle. Voilà. Avant que je le montre là.
Ouais, vas-y. Je vais le régler. Vas-y, raconte.
Lorsque tu as le ballon. Au secours. Non, mais j'en peux plus.
J'adore ce tweet. Pardon. Vas-y, raconte, Bastien. Et après, je mets le tweet.
Alors, bah, tu sais quoi, même je vais le faire avec l'audio derrière.
Vas-y.
106 à 105, 14 secondes
voilà
à jouer.
Voilà ce qu'aurait dû faire, c'est reconstituer.
Il y a marqué bonus.
Ouais.
Il n'y a aucun moyen que Ogilvy et Fox le sait, le rattrape pour prendre la balle. D'ailleurs, Fox va en parler après le match. Il le dit. Moi, je pensais que je pouvais être plus rapide. Oui, t'es plus rapide, tu vas récupérer le ballon.
T'es plus rapide, sauf que quand tu dois mettre un lay-up, tu dois forcément ralentir pour monter et tout. Et Anunoby, c'est un défenseur exceptionnel.
Si, enfin, je veux dire, tout à fait.
C'est pas Brunson qui le suit.
Non, non, bien sûr, absolument. C'est
Anunoby.
Et qui en a fait déjà 2-3 sur lui. Si, bah, tu sais quoi, je vais vous montrer la vidéo.
Vas-y.
Si D'Aaron Fox fait juste ça,
j'adore.
Tu fais le tour.
Hop,
fais le manège.
Voilà. Là, t'as gratté quoi? Là, t'as gratté.
4 secondes.
Ouais, 2, 3, 4 secondes. Et t'as deux lancers.
C'est-à-dire
que ton idée de mettre ton équipe à plus 3, ça marche tout bien, tout pareil, hein, avec deux lancers.
Problème.
Après, faut mettre les lancers, c'est sûr. Mais ça marche tout pareil.
Tu ne devineras jamais quel joueur s'est retrouvé dans une situation similaire. Évidemment, il y a quelques années où il y avait une outlet pour lui devant. Finale NBA, je crois que c'était face aux Pistons et qui fait le cirque. Manu Ginobili.
Ouais.
Tous les grands joueurs savent. Et j'ai même envie de dire, je pense sincèrement, malheureusement pour D'Aaron Fox, que Dylan Harper, il se serait peut-être ralenti, que d'autres garçons, etc. Mais Fox, à ce moment-là, c'est une erreur. J'étais dans mon salon, je me suis levé, j'ai fait, si on regrette cette action, c'est un scandale. Cette décision là de Fox,
catastrophique,
elle est horrible, elle est catastrophique. Elle redonne de la magie à Knicks qui se disent attention, on va voir. Il récupère la balle, Alvarado magnifique, passe la moitié du terrain, temps mort Mike Brown puisqu'il reste 5 secondes.
Passe la moitié du terrain.
Bah il la passe. Il la passe. Non. Alors par rapport aux règles, il fait le boulot.
Ah bon, il y a pas.
Il faut avoir.
Parce que j'ai vu des gens gueuler pour dire il y a retour en zone.
Je pense qu'il faut.
Et j'avoue que sur les images j'étais un peu circonspect.
Et pour être parfaitement franc avec le bouquin des arbitres, et je laisserai les arbitres notamment NBA venir
alors
me corriger, pour avoir un retour en zone, il faut que les deux pieds soient dans ta propre moitié du terrain.
Il ne met qu'un pied.
Et je crois que Alvarado ne met qu'un pied.
Bon, d'accord, ok. Allez, allons-y.
Il faut avoir la balle et qu'il y ait deux pieds. Mais c'est. Attention, on est d'accord, c'est très, très.
Ça change rien à l'erreur de Fox.
L'erreur de Fox, elle est terrible. Moi, j'ai regardé, je me suis dit, mec, je suis désolé, hein, mes fans des Kings, hein, mais si tu passes trop de temps à Sacramento, il y a un moment où ça te revient dans la tête. Qu'est-ce que c'est que ce choix de merde?
C'est de la faute des Kings.
C'est de
fait.
La lose. Non mais pour avoir un choix aussi nul, faut avoir passé 6 ans à Sacramento.
C'est chaud, c'est chaud. Et après, il faut saluer le héros qui s'éveille à ce moment-là, qui crève l'écran à ce moment-là. C'est-à-dire que sur deux plays de hustle, d'intelligence, hein, de QI, de timing, de tout ce que vous voulez, d'intelligence défensive et offensive et rebond et tout, en deux plays incroyables dans lesquels il ne va pas ni shooter, ni faire un dream ou quoi que ce soit, juste deux plays athlétiques, intelligents et de hustle. OG Anunoby va chercher, lâche pas le steak de Fox, attend qu'il ralentisse, calque ses appuis, le contre en mettant la balle sur la planche, la balle elle sort pas, hein. Non, tu la récupères, hein. C'est pas ball Spurs, hein. C'est à la balle, l'effort est dingue, le timing est incroyable, il n'y a pas faute, c'est propre, c'est nickel. L'autre côté, Alvarado, ok, tout ça, tant mort Nix, et là, balle à Brunson, Iso, bien défendu. Shoot à 3 points.
Moi je me dis une bonne défense des Spurs, ça va le faire.
Ouais, bonne défense des Spurs. Shoot à 3 points compliqué, qui rentre pas, qui rebondit très haut. Et là, qui c'est qui surgit là? L'aigle Anunoby, avec son envergure de fou malade. On l'a bien vu, l'envergure de fou malade d'Anunoby là.
La photo du siècle.
Là, l'envergure là, c'est un truc de fou malade. Et toucher, hein. Parce qu'il faut la mettre. Hein.
Exactement.
C'est pas si simple à mettre.
La photo rentre dans l'histoire. OG Anunoby met le tip-in.
Qui va plus devenir, dur à mettre que le layup de Josh Hart. Hein.
Tout à fait. Qui va devenir The Tip.
Ah bah là, attention.
Parce que ça rentre dans la légende. En l'espace de 30 secondes, OG Anunoby devient une légende absolue des Knicks, puisque Mike Brown va en parler après le match. Il va dire, pour une franchise aussi mythique des Knicks, hein, il a dit, je ne sais pas s'il y a une action plus mythique dans l'histoire des Knicks que ce que vient de faire OG Anunoby.
Une action qui donne probablement le titre. J'ai dit c'est probablement, hein, parce qu'on va parler de probabilité. Mais c'est exceptionnel.
Est-ce que
là les deux actions là c'est incroyable OG Anunoby. En plus dans un match où l'autre il fout 7-3 points. C'est-à-dire que offensivement il a combien de points?
Il a 31 points.
Ouais voilà, non, c'est
mais
ça.
Mais Stéphane c'est Kawhi de toute façon sur la tête des Spurs en plus.
Kawhi et Ray Allen.
Je te fais un quiz.
On hésite.
Tu es prêt pour le quiz?
Vas-y.
Hey mesdames et messieurs, êtes-vous capable de répondre à cette question? Question à choix multiples. Sur la dernière action, le tip-in de OG Anunoby, qui est donc à la remise en jeu. Quel est le joueur qui est censé boxer OG Anunoby? Réponse A, Victor Wembanyama. Réponse B, De'Aaron Fox. Réponse C, Dylan Harper. Réponse D, Stephen Castle.
C'est une bonne question. Vu qu'ils ont mis que des shooters, New York, forcément, sur cette action-là, il n'y a pas vraiment de... Je sais même pas, il y a Towns, il doit y avoir Towns quand même, parce que c'est un vrai shooter. Qui est censé boxer OG? De toute façon, il arrive de tellement loin, ça doit être Fox, non?
Bonne réponse!
Bah, est-ce qu'il arrive de loin? C'est logique. Après, ok, c'est sûr, il faut le bloquer, il y a 3 points et tout. Mais par exemple, tu vois la photo là? Remets la photo à l'écran, s'il te plaît.
Au secours.
Ça va, Victor? Il voit bien, hein, il voit bien l'action, Victor.
Alors,
là, il est bien placé. Hein.
Oui.
Franchement, il voit bien l'action.
Alors,
impeccable. Hein.
Juste.
Ouais, désolé. Hein.
Alors,
le mec fait 2m40. Hein.
Oui,
je suis sous le cercle, s'il te plaît. S'il te plaît.
Bah, j'entends, mais après, c'est quand même lui qui conteste à 9 mètres Brunson, hein, le shoot à 3. Hein. C'est dur. Attends, athlétiquement, tu te rends compte? C'est lui qui conteste.
C'est Wemby qui conteste.
Ah ouais, non, c'est Wemby. Non. J'entends ce que tu veux dire, Alex.
Ah,
mais
autant pour
moi
alors. Ah bah attends.
Je me suis fait
la réflexion, mais je me suis pas fait la réflexion d'aller vérifier. C'est Wemby qui est au conteste sur Brunson.
En fait, ce qui se passe, c'est que Fox et Wemby montent au conteste. Je vais te remettre le shoot. Fox et Wemby viennent doubler sur Brunson. Donc Brunson est le garçon qui va shooter à 3 points. Et vu qu'il y a deux joueurs sur lui, ça va être justement à OG Anunoby de monter au rebond offensif. Pif paf pif paf pif paf pouf. Je vais te montrer la séquence. Et désolé, il faut que je scroll parce qu'il y a un nombre de contenus si vous voulez depuis le début.
Là.
Non, choke. La dernière action, elle va arriver dans une minute. 106, non, 105. Non, ça c'est De'Aaron Fox, il fait de la merde.
Non.
Ça c'est le type, ça va arriver tout de suite. Excusez-moi.
Là. Ah oui, autant pour
c'est,
moi.
Je vous montre juste.
D'ailleurs, vas-y.
Là.
Ouais.
C'est bien. Là, pour que Wemby soit au rebond, franchement, c'est chaud. Pardon. C'est...
Non, je suis d'accord. En fait, t'as raison.
Mais juste, est-ce qu'on peut regarder De'Aaron Fox?
Et par contre, De'Aaron Fox, je suis désolé, on est dur avec lui aussi. Parce qu'en fait, il vient doubler. Du coup, de fait, il n'est pas placé devant.
Oui,
il vient doubler.
Oui, mais là, tu regardes. Là, Fox, il regarde l'action.
Ouais.
Là, pour moi, okay, Fox, okay. Il regarde l'action.
Je suis d'accord, mais tu sais quoi? Je suis d'accord, on peut. Mais en fait, je pense que ma critique de Wemby, elle n'était pas justifiée. Je pense que la critique de Fox sur le rebond offensif est difficile également, dans le sens où on lui a demandé de doubler Brunson, c'était prévu. Oui. Et du coup, c'est compliqué de te remettre tout de suite dans la course d'un excellent cutter, rebondeur comme Anunoby. Je trouve ça compliqué. Ce que je veux, là où je veux aller, c'est que Fox et Wemby, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me moquais, je disais l'ironie, sont au cœur de ce choke. Ils sont tous les deux en prise à deux sur, sur Brunson. Enfin, vraiment, on est vraiment dans l'ironie totale. Hein. Mais c'est clairement pas pour moi sur cette action-là qu'on a le plus à les blâmer. En fait, je pensais que Wemby était plus près du cercle que ça. Ouais,
non,
pour
le
coup,
non,
il,
franchement. Le contest de Wemby,
j'ai rien
puisqu'en
dit,
fait, Brunson, qui est chaud patate, envoie un shoot de 10 mètres. Et d'ailleurs, certains ont rigolé en disant que Mike Breen était prêt à envoyer le premier quadruple bang de l'histoire de la NBA. Parce que Brunson, il met ce shoot sur Wemby.
Ah,
c'est
bah
terminé.
Là, attention.
Là, c'est Gotham. Hein. Avec
même
que
temps,
des jokers dans la rue.
On n'aurait pas eu ce put back d'Anunoby, ça aurait été dommage.
Et quand bien même tu as ce tip-in extraordinaire de OG Anunoby,
il reste
1,2 secondes.
Il reste le temps de shooter.
Avec une remise en jeu pour les Spurs dans la moitié de terrain d'Enix. Tu as temps
mort.
Et,
toi, hein.
Et le système qui est dessiné est plutôt bon puisque Stephen Castle parvient à contourner en backdoor pour aller au panier.
Ah, sauf qu'il y a le chat qui y griffe.
Sauf que Karl-Anthony Towns fait un magnifique contest sur la mise en jeu et que la passe, elle est détournée de Dylan Harper.
Elle est juste détournée ce qu'il faut, ralentie comme tu veux. Ah bah. Et bon, on ne sait pas hein, ce qui se serait passé. Par contre, pour le coup, on ne peut pas dire que ouais, Castle il aurait marqué ou quoi. On n'en sait
non,
rien
non,
du
sûr,
tout. Mais il aurait
mais
eu le ballon dans des meilleures conditions.
Oui, et
ça
le,
c'est sûr.
Et le play était bon puisque en fait, je crois que c'est Mitchell Robinson qui est sur le parquet sur Wemby.
Il aurait le temps de shooter.
Il ne peut pas venir contester Castle à l'arceau. Donc, buzzer. Les gens comme ça,
incroyable.
Les deux mains sur la tête, qu'est-ce qu'on vient de vivre ? Le plus grand comeback de l'histoire des finales NBA, plus 29. L'action la plus mythique de l'ère moderne et peut-être de l'histoire des Knicks, c'est même The Block et The Tip. Alors moi, ça va s'appeler The Tip, hein, parce que The Block, évidemment, c'est la propriété d'un certain numéro 23 à Cleveland. Mais ce n'est pas juste le rebond offensif de OG Anunoby. Comme tu l'as bien précisé, Alex, il faut se rendre compte que ce mec est allé chase down De'Aaron Fox avant de planter le rebond offensif
dans un match où
dans
il a
un match,
7 3 points et
je
tout
dire,
enfin, je veux dire c'est pas genre
heureusement qu'il est silencieux parce que si c'est LeBron qui fait ça mec on est sur des débats
mais bien sûr
de malade.
Non mais vraiment là OG Anunoby fait des playoffs et des finales de stars, de vraies stars. Et il n'y a pas un mot sur son contrat pendant ses playoffs. Alors qu'avant, il faut vraiment payer ce prix-là de Giannunobi. Bah oui, tu peux le payer ce prix-là en fait. Ça,
ça a toujours été
en playoffs.
Ça a toujours été les blessures, les histoires avec OG parce que quand il n'est pas là, ça sent fort. Et quand il est là, bah, on le voit à un niveau. Enfin, je veux dire, là, c'est. Il est officiellement dans la légende des Knicks. Je veux dire, s'il gagne le titre, aujourd'hui, on va voir quelle sera la fin de la série.
On va voir comment la série est.
Comment
la série évolue. Ouais,
parce qu'évidemment, la production numérique de Jalen Brunson est très forte et les pourcentages étaient mieux hier soir, mais compliqués. Mais s'il y a des gens qui me disent sur la série, OG Anunoby peut discuter pour être le Finals MVP,
il discute, c'est sûr.
Problème.
Ouais, aucun c'est sûr
problème.
Qu'il discute.
Aucun problème.
Bien sûr.
Côté Knicks, on va venir côté Spurs, mais côté Knicks, tu mènes 3-1. Tu as réalisé le comeback le plus improbable de l'histoire en finale NBA. Plus 29, tu reviens. Le niveau de confiance, les joueurs qui en parlent en conférence de presse, les choix de Mike Brown avec Alvarado sur le terrain, pas forcément utiliser McBride ou Chamet, appuyer sur les bons boutons. Côté Knicks, tu es en confiance totale, tu sais que désormais tu as 48 minutes d'offrir un titre à New York.
Ouais, ouais.
On y est, toi tu disais Game 4, victoire des Knicks. Pas dans ce scénario-là, mais tu l'as.
J'avais pas le scénar.
T'avais 3-1.
Les pronostics, ça vaut pas grand-chose.
Tout à fait.
Mais j'avais pas du tout ce scénar, évidemment, de toute façon personne n'avait ce scénar.
Côté Spurs, le coup de massue est
réel.
Il n'est même pas comparable avec quelconque autre coup de massue. Moi, Alex, évidemment, j'ai...
C'est le deuxième dans la série. Il y a eu le Game 2 aussi.
Et c'est ça. Moi, j'avais plusieurs choses. Déjà, il y a le Game 2 où il y a eu The Pass dans le dos.
Il y a un choke au Game 2. Hein.
Tout à fait.
Alors,
il y a
pas
The Pass
dans
le dos.
Proportions, mais c'est un choke. Hein.
Donc, très gros apprentissage en l'espace d'une semaine. Les Spurs vivent deux terribles défaites. Tu peux refaire la série et te dire que sur ce jeu, on est quel jour ? Je sais même plus. Mercredi ? On est mercredi.
On est jeudi.
On est jeudi, parfait. Il pourrait aussi y avoir un tout autre score dans la série. Les Spurs pourraient se dire, mais attends, mais on pourrait avoir 2-2 ou minimum 3-1, hein, tu vois. Enfin, minimum 2-2
bien
ou 3-1.
Bien sûr. Ah, bien sûr.
Malheureusement aussi, je suis désolé, mes amis fans des Spurs, mais on va devoir rajouter The Tip à 0.4 Derek Fisher. La faute de Manu sur Dirk Nowitzki, le shoot de Ray Allen dans le corner rebound Bosch, on ajoute The Tip. Hein. Ah bah largement. On a vécu des trucs extraordinaires avec les Spurs. On n'est pas du tout à pleurer, hein, parce qu'il y a eu des titres, des Hall of Famer, tout va bien. Mais par contre, venez nous chercher en moment iconique traumatisant.
C'est chaud, j'avoue.
Les Spurs ?
Ouais, c'est chaud.
Faudra peut-être faire un classement des franchises qui ont pris les séquences les plus improbables de l'histoire des finales.
Vous aimez bien Choke ? Vous n'êtes pas les seuls, hein ? Mais là, en finale, comme ça, ça se voit bien, quoi.
Et je vais.
Au Madison Square Garden, là, c'est.
Et pour autant.
Il y a de la visibilité.
Oui. Et pour autant, je sais que c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais pour autant, Alex, j'y crois encore.
De toute façon.
J'y crois encore.
Bon, alors, d'accord, ok, t'y crois. Mais, pardon, excuse-moi, juste. Il y a déjà eu 38 équipes qui ont mené 3-1 en finale NBA. D'accord ?
37-1, du
coup. Il y en a 37 qui ont été champions. Hein. Donc, tu y crois ? Je respecte. Par contre, au niveau probabilité, l'histoire te dit, dis donc, doucement quand même. Hein.
Et quelque part, normalement, si on était en train de boire un café à 3h30 du matière et qu'il y avait plus 29 et que tu me disais les Knicks, j'y crois, je te dirais l'histoire, la probabilité, des équipes qui reviennent de 29 points dans un troisième quart, ça n'existe pas.
Ah oui, non, bien sûr.
Donc,
c'est sûr.
Je suis le premier à être... En fait, quand je dis j'y crois, c'est que évidemment les Spurs se sont mis dans une position où désormais tu n'as plus du tout le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'un match où ça shoot mal, c'est terminé. Fini. Un gros match offensif des Knicks, c'est terminé. Choke dans le Money Time, c'est terminé.
Tu sais quoi ? Un match où ça shoot mal, c'est pas forcément terminé. Si ça va au cercle, oui. Si ça va sous le cercle. Ah, mais... En fait, le problème des Spurs, là, c'est qu'il va falloir faire abstraction de ce match. Mais j'ai envie de dire, il faut faire abstraction même de la première mi-temps. Dans le sens où la première mi-temps a un côté exception avec tous ces tirs à 3 points qui rentrent. Il faut pas se baser là-dessus.
Non.
S'ils veulent espérer, donc déjà il va y avoir un match. Faut prendre match par match. Hein. Voilà. Si vous voulez plus d'analyse, vous mettez un pouce.
C'est le hat. Ouais. A ball never lies.
Faut prendre match par match. Donc match 5 à la maison,
si
tu reviens
plus de points
sur tes terres
que les Knicks.
Tu dois te concentrer, mais tu dois surtout te dire oh, on doit aller au cercle. Game 3. L'exemple, c'est le game 3. C'est celui-là le bon exemple. Aller au cercle, être agressif au rebond et prendre son temps dans les moments plus chauds. Au game 3, ils ont pris leur temps un peu mieux dans les moments plus chauds. Ils ont eu ils ont provoqué les bonnes fautes, ils ont chopé les calls qu'il fallait, gratté les petits rebonds et tout, tu vois. Pas du tout là. Là, ils se sont fait aspirer dans le choke. Et ils ont pas su s'en sortir. On a vraiment une impression de sable mouvant, quoi. Et ça. Vraiment, ce game 3 pour les Spurs, il y a le côté traumatisant, mais l'erreur à ne pas faire, à mon avis.
Le game 4, tu veux dire ?
Ce game 4, pardon. Oui. Traumatisant, et l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire ouais, la première mi-temps. Non.
Oh, je crois pas du tout. D'ailleurs, c'est pas l'état d'esprit des Spurs.
D'accord, tu vois, mais l'état d'esprit, genre on va gagner tous les matchs et tout machin, c'est bien, super, mais genre, la confiance, c'est bien. Mais là, le problème qu'ils ont, c'est que là, ils doivent apprendre à vitesse grand V. C'est-à-dire que maintenant, bah, t'as plus de droit à l'erreur parce que bah, si tu perds, les finales sont finies. Et que tu as en face de toi une équipe qui est difficile à appréhender,
ouais.
Qui sait poser des petits stops défensifs quand il faut.
Et qui a la magie avec elle. Hein.
Qui a de la magie avec elle.
Il y a un moment.
Et
t'as des équipes comme ça, elles sont destinées. Hein.
Ouais. Et qui est venu te battre déjà deux fois chez toi au match 1, au match 2.
Ah là là,
les Knicks, ils viennent pas à San Antonio. Mais bon, de toute façon, on finira à New York. Non.
Comme ils disent,
je pense pas du tout.
Hein. Ouais, tout à fait. New York, ils y vont avec même pas des affaires de rechange. Hein. Ils y vont pour célébrer le titre là-bas. Il y a des fans des Knicks qui sont en train de défoncer Ticketmaster pour aller prendre toutes les places et envahir la salle des Spurs. En fait, quand je dis j'y crois, c'est parce que déjà, moi, je j'abandonne pas et je pense que cette équipe a montré qu'elle avait des ressources. Que lorsqu'elle a été menée 3-2 par le Thunder, qui a un autre adversaire évidemment, mais ils ont montré que, un, ils pouvaient tenir la série et l'emporter à l'extérieur. Donc, ta première mission, c'est de forcer un Game 6 monumental.
Exactement.
À New York. Ça, c'est la première chose. Et, comme tu l'as très bien dit, jamais ça me viendrait à l'esprit, et ce serait totalement déplacé, de retirer du crédit aux Knicks. Ils sont allés chercher merveilleusement ce comeback avec un nombre de choix et d'ajustements et une sérénité collective et mentale très très forte. Je trouve... Ceci étant dit, que le sentiment qui prédomine, et peut-être que c'est parce que je suis fan, tu vois, et tu vas me dire peut-être que c'est parce que bah, j'ai la bannière Spurs avec moi, mais c'est que San Antonio se tire des balles dans le pied.
Oui, bah sur ce match 4, c'est indéniable.
Et sur le 2, Et sur le 2, la fin du 2, tu te tires une balle dans le pied, tu fais la passe dans le dos de ton coéquipier et tu fais faute alors que les Knicks sont dans le bonus. Tu donnes le match à Brunson, tu te tires une balle dans le pied. Tu mènes de 29 points dans le troisième quart, tu fais du caca, tu te tires une balle dans le pied. Et peut-être que la destinée de ces Spurs sur ces finales, c'est d'être une équipe jeune qui va se tirer des balles dans le pied et avoir une très un très difficile apprentissage. Peut-être.
Non, mais peut-être. Mais
dans le jeu.
C'est évident que là, il y a du choke et il se tire une balle dans le pied, notamment dans ce match 4, mais aussi en fin de match 2 et tout. Mais face à plein d'autres équipes, ça serait passé. En fait, c'est ça le truc. Là, manque de peau pour eux, ils tombent sur ces Knicks qui ont un niveau de confiance de fou furieux. C'est-à-dire qu'il faut aussi se rendre compte du délire. Quand ça monte à moins 29, à plus 29 ou moins 29, vous avez compris, à 29 points d'écart en début de troisième, les Knicks... Ils sont pas le body language des Knicks, il est pas genre ah merde putain il va y avoir deux et tout. Ils sont pas là dedans. Hein. Ils sont en mode continuer à jouer, on prend les mêmes tirs, on fait tourner le ballon, on y va, on cherche les positions. Ah Brunson est pris, ah nanana. Et Mac Brown il continue à respecter ses rotations et à chercher les bonnes solutions et tout. Et puis tout d'un coup boum ça se met à tomber dedans et quelques stops défensifs, quelques erreurs, le Garden qui se lève et c'est plus le même match. Et ça à ce jeu là, ces Knicks là cette année sont imbattables.
Ils sont trop forts à ça, tout à fait.
Trop forts.
Petit clin d'œil pour Leon Rose. Le petit transfert de José Alvarado là, à la deadline.
Propre,
hein,
propre.
Pourquoi je mentionne Alvarado ? Parce qu'évidemment, au-delà de ce qui s'est passé, apparemment, je laisse les fans d'Enix me confirmer, apparemment, à la mi-temps, il a fait une espèce de Tony France-Espagne. Hein.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'apparemment, Alvarado, qui n'est pas leader du tout, mais qui par contre a de la grinta et refuse de se faire abattre, dit « Les gars, moi, je veux bien qu'on se fasse dérouiller, mais par contre, on se défonce.
Ah.
On se défonce. » Et le mec qui parle comme ça et qui joue derrière, c'est Alvarado.
Bah, c'est bien.
Non, mais de toute façon, donc, c'est ça,
ça
aussi.
Je te dis, c'est Knicks.
C'est Knicks, t'as l'impression qu'il y a une espèce de destinée, quoi. C'est que les gars, en fait, dès qu'il doit y avoir une bascule, ça va aller dans leur sens. Et malheureusement, ça arrive pour les Spurs qui est l'équipe d'en face. C'est comme ça. C'est un test terrible pour San Antonio parce qu'il y a plein d'apprentissages. Moi, tu vois, par exemple, on a parlé de Victor au lancer franc. Oui, certes. Moi, j'ai envie juste de remettre un jeton. Victor, un match, c'est 48 minutes.
Ah, ça,
première mi-temps, elle est très bonne. Le seul match complet qu'il a fait, c'est le match 3.
Tout à fait.
Et les Spurs gagnent. Quand Victor fait des gros cartons ou des grosses mi-temps, malheureusement, comme tu le dis très bien, Alex, face à 90% de la NBA de octobre à mai, ça passe. Mais là, il faut des matchs complets. Des mi-temps qui se suivent de très bonne qualité. Pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Et après, non mais complètement d'accord.
Il se chie sur la deuxième mi-temps.
Ouais, Victor. Il se chie sur la deuxième mi-temps. Et malheureusement pour lui, on va revenir à ces histoires d'expérience, voilà, où lui-même, mais autour de lui non plus, il n'y a pas un gars pour dire oh, arrête, vas-y, arrête, s'il te plaît, là, il poule à pas trois, là. Donne-moi le ballon. Je vais poser, viens me faire un écran.
Ça aurait pu être Fox.
Roule. Ça aurait dû être Fox ou le coaching staff également. C'est-à-dire que le coaching staff, c'est aussi à eux de taper du poing sur la table et de dire oh les gars, oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Arrêtez de prendre les trois points contestés. On pose, on cherche, on attaque leur raquette. Si ça passe pas, on refait. Et on ne prend des tirs à trois points contestés que si on n'a plus le choix en fin de possession.
T'as raison, Mitch Johnson, d'ailleurs, certains l'ont un peu pointé du doigt après le match en disant
ah, bah attention, hein, il est responsable aussi, là, attention.
Et malheureusement, il n'y a pas eu, ou alors je m'excuse si j'ai pas vu toutes les déclats, mais j'ai quand même pas mal regardé. Je crois pas qu'il y ait eu de Mitch Johnson Bon, j'ai protégé un peu mes joueurs, j'ai fait caca culotte. Enfin, je veux dire, Mitch Johnson aussi, lorsqu'il a fallu aussi protéger un peu ses joueurs, 22 piges de moyenne d'âge dans la fournaise du MSG, à prendre des bons temps morts et à mettre les bons plays, faut aussi qu'ils disent autre chose que juste, voilà, il faut avoir un peu plus de résilience et de sérénité mentale dans ces matchs-là. Mec, tu fais partie aussi de cette défaite.
Ah bah, complètement. Les premiers acteurs du choke, c'est les joueurs, mais le coach avait certainement les moyens de gratter les 2-3 petits points, les quelques possessions qui auraient tout changé en fait.
Alex, tu as dit 4-2 Knicks.
Bah on y est, on est bien, on est en place.
Donc ça veut dire que
Spurs gratte.
Spurs win.
Ouais, Spurs. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens dire c'est impossible de se relever de ce truc. Moi je suis pas d'accord avec ça, je dis pas qu'ils vont remonter le 3-1, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que tu peux tout à fait avoir un autre bon démarrage des Spurs. Peut-être pas aussi violent que celui qu'on a vu là, mais bon, bien, dans le match. Et genre, Ils sont jeunes, mais c'est pas trop le joueur à lâcher.
Non, non.
J'y crois pas, moi. Et ils sont athlétiques, ils ont des moyens défensifs. Le public là-bas à San Antonio, lui, dans sa tête, il gagne 4-3. Donc, de toute façon, ils vont rien lâcher, on est d'accord.
Et
lui,
on accueille bien les fans des Knicks.
Il va y avoir quelques fans des Knicks dans la salle, c'est sûr, parce que c'est une grosse fanbase. Mais ça va quand même être une salle aux couleurs Fiesta, pro Spurs à fond et tout, bruyante de ouf. Donc, pour moi, ces Spurs vont prendre le match 5 chez eux et devront aller gérer l'exploit, ou alors les Knicks vont aller au bout de mon petit pronostic au Madison Square Garden et ça ferait 4-2. Mais j'ai la sensation qu'il va y avoir un Game 6.
Moi aussi. Le seul scénario dans lequel je vois que ça n'a pas lieu, c'est que notre cher Nicolas, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui sera donc à San Antonio pour le Game 5, il m'a dit, tu sais que si ça se trouve, je fais le premier et le dernier match de la saison cette année. Le mec, il a fait les bagues.
C'est vrai.
Il a fait la remise des bagues à OKC.
C'est vrai.
C'est que je peux te dire que si son déplacement à San Antonio, c'est la remise du trophée sur le parquet des Spurs.
Tu repars plus jamais aux États-Unis, mec. C'est terminé.
Nico, tu vas faire que de la rédac, mon frère.
Non, j'en ai rien à secouer.
C'est vrai qu'on a un gars de Trash Talk qui va être sur place.
Bien
là.
Sûr.
Ça va être incroyable d'être à San Antonio pour ce Game 5 avec la pression qu'il y a et tout. Pour peu que ça veuille un peu rigoler et que ça se passe bien pour les Spurs, va y avoir une belle teuf. Ça va être rigolo.
Si ces Spurs sont à la hauteur de ce que je pense, et notamment dans leur choix, je pense qu'en effet, il y a déjà un Game 6. Et les Spurs se sont prouvés qu'ils pouvaient remporter un match au Madison Square Garden. Et donc, il faudra voir à ce moment-là.
Oui, oui, mais après, ils ont déjà prouvé aussi que ça choquait fort là, quand même.
À domicile.
Donc, match par match.
Samedi soir.
T'as qu'une seule équipe dans toute l'histoire NBA qui a remonté un 3-1 en finale, par respect pour les Warriors. On va pas reparler de cette malheureuse histoire où il y a un petit contre un peu important aussi, il me semble, si je me souviens bien.
Tout à fait. D'ailleurs, excusez-moi, dernier élément, parce qu'on n'en a pas parlé.
Dis-moi.
Victor, les flagrantes, prochaine flagrante, suspension.
Ouais, bah c'est normal. Franchement, il est très borderline. Hein.
Il est extrêmement borderline, mais juste, certains l'ont peut-être pas remarqué, parce qu'on a parlé beaucoup de OG, le comeback, Brunson et tout. Wemby, là, il est à 3 flagrantes sur ses playoffs. Mm. Les règles NBA sont claires. À la 4e, tu as une suspension. Draymond 2016, c'est pour ça que tu me parles
si
de Draymond 2016.
Si tu te fais suspendre pour le Game 6, c'est vrai que
si
c'est un peu moche.
Si tu te fais suspendre pour le 6 ou voire pour le 7,
non,
parce
faut
que
tenir ses nerfs. Surtout que moi, si je suis les Knicks,
allez-y,
les gars. Hein, vas-y, Alvarado, vas-y, 4.
Mets lui des points dans les côtes, là, comme ça, là, vas-y.
C'est clair.
Chie dans ses pompes, tu
obligé.
Vois.
Obligé.
Ouais, bah, bien sûr.
Quitte à prendre une flagrante chacun, tu vois, c'est parfait. Quoi.
Ah non, mais t'envoies Hugues Porti et tu lui dis, fais une flopée truce, t'as
rien. Grave.
Fans des Spurs, on est ensemble. Envoyons-nous des câlins. Fans des Knicks, vous êtes à 48 minutes de remporter un titre.
Histoire.
Et de l'histoire absolument. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a match. Moi, je ferai le débrief, je crois, avec Simon dimanche
matin.
Ouais,
je pense que je serai pas là dimanche pour le débrief.
Mais je serai là et donc, bah, au choix. Soit c'est une semaine de merde jusqu'au bout et vous me voyez débriefer le titre des Knicks. Soit les Spurs forcent un Game 6 au MSG qui aura lieu, je crois, dans la nuit de mardi à mercredi.
Mardi-mercredi, s'il y a un Game 6, ouais, tout à fait. On va voir. On va voir.
Pour ça, il faudra bien jouer 48 minutes. Allez, des gros bisous et merci d'Iron Fox pour rien du tout. À
ciao
la prochaine.
Tout le monde.
Ciao.
Ciao.